De votre émission Parole aux auditeurs, une émission de Radio Capi d'échange et de discussion sur des sujets qui vous intéressent. Ce mercredi, notre émission interactive a choisi pour vous un sujet du secteur de l'éducation. En République démocratique du Congo, les conditions de vie des étudiants dans les homes et des universités et instituts supérieurs sont souvent précaires. Dans les homes de plusieurs universités ou instituts supérieurs publics, une chambre avec une capacité initiale d'accueil de 4 étudiants héberge 8 étudiants, voire 10 ou 12. Même les couloirs sont utilisés comme chambre à coucher la nuit. Les sanitaires, douches et toilettes sont souvent dans un état déplorable. Pas de cuisine, les chambres sont transformées en cuisine avec des installations électriques souvent défectueuses. Quelques efforts de réhabilitation sont constatés, mais les besoins sont énormes à tel point que les travaux de réhabilitation sont engloutis face aux besoins pressants de la communauté étudiantine. Les questions pour lancer le sujet, quel état de lieu faites-vous des homes des étudiants dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour une amélioration des conditions de vie dans ces lieux d'hébergement? Ce sujet vous intéresse. Vos avis, propositions et questions sont attendus au cours de cette émission. Pierre Lamégi, Arlette Mboui, Clovis Louboula, sous la supervision de Ben Kabamba, sont à la réalisation de cette émission. Sans oublier que Dieudonné est à la mise en onde. Soyez les bienvenus à cette émission.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Situation assez précaire dans les homes d'universités publiques, aussi dans les instituts supérieurs. C'est assez difficile et précaire et souvent très déplorable. Nous en parlons aujourd'hui. Nous avons Désiré qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour Désiré.
Bonjour monsieur le journaliste.
Oui madame. Désiré, dites-nous quel état de lieu faites-vous des homes dans vos universités à Mbandaka?
Vraiment, la situation en Mbandaka, vraiment, c'est catastrophe. Pas moins de parler, pas moins de commenter, pour commenter vraiment.
Est-ce que vous pouvez expliciter cela?
C'est-à-dire quoi? Au sein de l'université, surtout à Mbandaka, il y a la mégestion, la mégestion, c'est-à-dire les autorités ne prend pas la responsabilité d'essayer un peu d'harmoniser les choses.
Oui, mais soyez un peu plus concret. Est-ce qu'il y a un surpeuplement? Est-ce que c'est sale? Est-ce que les sanitaires sont bouchés? Donnez-nous un peu des témoignages concrets.
Oui, il n'y a pas vraiment de bibliothèque. Et vous savez, l'université comme Mbandaka n'a pas de bibliothèque. Bon, ça, vous voyez, ça, c'est normal.
Bon, pour aujourd'hui, nous parlons vraiment des homes d'étudiants. De quelle manière ils sont en train de vivre? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'au moins il y a un internat au niveau de l'Institut supérieur de Mbandaka ou l'université à Mbandaka?
Bon, au niveau de l'université de Mbandaka, il n'y a pas de homme, mais au niveau de l'Institut supérieur, il y a l'homme vraiment. Mais il y a des situations catastrophes vraiment. Pas moi de parler.
Merci beaucoup Désiré pour votre participation à cette émission. Bonjour Job.
Bonjour madame la journaliste et coucou à tous les auditeurs de Radio Papi à travers le monde.
Donc vous nous appelez à partir de Bounia. On vous écoute. Quel est votre témoignage sur ce sujet assez intéressant?
Oui, nous sommes là, on est étudiants, on est très étudiants, on est très étudiants. Ce que nous faut dire, les étudiants sont assez blessés de menaces, parce que chez nous, en fait, donc c'est l'expansion de l'université de Saint-Lani, le centre universitaire expansion de Bounia. Il n'y a pas, en tout cas, un campus digne de chez nous là, ayant des fois quatre auditoires basés qui se partagent une même chambre. On ne sait pas ce que passent les autorités académiques, même les dirigeants du pays, puisque les étudiants vivent une vie peu catastrophique là, madame.
On essaie un peu de vous comprendre. Ça signifie quand même qu'il y a un internat au niveau de cette université là, où il n'y en a pas.
Oui, il y en a, mais il y en a pas, c'est pas si, il n'y a pas assez de place. Il y a beaucoup de chambres, on peut compter une trentaine. Mais, en tout cas, ça a donné le nombre d'étudiants. Nous sommes à milliers, 2000 étudiants ne peuvent pas quand même se partager 30 chambres. Vous voyez que c'est vraiment la moindre de la moyenne qui pourrait exister.
Mais pour ceux qui sont là-bas, comment ils vivent?
Bon, ils vivent dans une misère, puisque et même la bourse qui était promise n'est on ne sait plus, on ne sait pas ce que passent les autorités. Donc les petites sont là, abandonnées par leur successeur, ne savent pas que faire, mais cherchent quand même essayer de se mettre dans des ONG à l'état même étudiant pour être fait de cette pique. Donc vous allez les voir peut-être il faut les gardiennages à la musique. Comme il y a un quartier rural exploré beaucoup plus proche de notre campus, étant donné que nous étudions en ville ici chez nous.
Mais est-ce que nous pouvons revenir vraiment sur le lieu d'hébergement? Comment ça se passe? Est-ce que vous allez les rendre visite pour savoir quelles sont les conditions de vie dans lesquelles vivent ces étudiants?
Moi-même, je reste au campus, donc je suis moi-même étudiant.
Est-ce que les sanitaires sont...
Avant l'émission, j'ai interrogé quelques-uns et ils ont dit que vraiment ça ne va pas assez.
Comment se présentent les sanitaires, par exemple? Est-ce que c'est entretenu? Est-ce que vous avez des cuisines, à part le fait que vous soyez assez nombreux dans une chambre?
En tout cas, il n'y a pas même de cuisine, il n'y a pas... des ustensiles aménagés, il n'y en a pas, et puis les étudiants se débrouillent, ils mangent dans des restaurants. Donc chez nous, en tout cas, nous ne préparons pas même au campus puisqu'il n'y a pas moyen.
Merci beaucoup, Job, pour votre témoignage. Nous prenons directement David, qui nous appelle de Manono. Bonjour, David.
Bonjour, maman.
Oui, David.
C'est juste une question qui va tout droit à son excellence, le ministre.
Hein. Oui, le ministre a promis que peut-être s'il arrive à se libérer à temps, il pourra être notre invité. Mais entre-temps, nous aurons un ancien recteur d'université qui a géré et qui pourra nous expliquer comment ça se réglemente. Mais entre-temps, le ministre n'est pas encore en ligne. S'il y a confirmation, il pourra être en ligne.
David, on vous écoute. On lui pose la question de savoir si... il prévoit aussi la régulation des bourses dans cette amélioration des conditions des étudiants, ou soit dans quel sens son excellence dirige cette amélioration des conditions des étudiants. C'est pour cette question adressée au ministre.
Mais merci, on pourra lui rappeler ou lui poser la question si il arrive à pouvoir être en ligne, s'il arrive à se libérer, parce qu'il a dit qu'il a une réunion. S'il arrive à se libérer, nous l'aurons en ligne, mais entre-temps, nous aurons aussi l'ancien recteur d'université qui pourra nous expliquer comment est-ce que ça se réglemente. D'ailleurs, la réalisation vient de me faire signe que nous avons en ligne déjà le professeur Kambai Boacha. C'est un ancien recteur d'une université sur place. Bonjour, professeur.
Bonjour. Je ne suis pas ancien recteur, il faut expliquer ça.
Oui.
Je suis ancien secrétaire général académicien.
Merci beaucoup pour cette précision, professeur. Voilà. En fait, vous êtes ancien secrétaire général académique.
Oui.
Vous savez, il n'y a pas de secret pour vous en ce qui concerne les hommes d'étudiants. Vous avez quand même une idée de tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Et c'est ça même notre sujet d'aujourd'hui. Professeur, il y a eu plusieurs préoccupations. Hein. Apparemment, il y a eu des témoignages témoignages des auditeurs qui pensent que la situation n'est pas assez bonne, ce sont des situations assez précaires dans lesquelles ces étudiants vivent, mais vous-même, est-ce que vous pensez que c'est assez normal que, par exemple, dans une chambre d'étudiants qui était prévue pour 4, on en trouve 8 ? Comment est-ce que ça se passe normalement ?
Non, écoutez, j'étais dans le feu de l'action, je suis encore dans le feu de l'action, je suis éducateur, je suis professeur ordinaire à l'Université Pédagogique Nationale. Je tiens à vous dire que l'Université Pédagogique Nationale est une université d'État à part entière. Vous comprenez ? J'aimerais aussi vous dire que l'État a la responsabilité, je dis bien, l'État a la responsabilité de faire fonctionner l'université comme elle doit fonctionner et nous devons entrer dans un contexte de la compétitivité, de la mondialisation nationale ou internationale. Je vais vous dire, madame, que les conditions dans lesquelles nos étudiants vivent ne sont pas des conditions normales. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les étudiants peuvent faire quoi ? Les étudiants sont, vous parlez de 8, vous parlez de conditions qui ne sont pas... Mais ils peuvent faire quoi, ces étudiants ? Je ne dirais pas pauvres étudiants, mais ils peuvent faire quoi si les parents, nous sommes nous, parents, incapables de payer ce qu'il faut payer pour que nos étudiants puissent étudier comme il faut. Nous ne sommes pas payés, les parents ne sont pas payés. Comment voulez-vous que les étudiants, est-ce que les parents sont capables de payer le transport pour venir à l'université? Il habite Maluika, il habite Tissenso. Comment veut-il faire pour arriver à l'université ou prendre 3-4 bus? Et quand bien même il est là. Alors je continue, madame. Et quand il est à l'université, il va manger quoi? Il va étudier. Non.
Oui,
je crois qu'il ne faut pas accuser les étudiants pour voir les conditions. Nous devons être sérieux, madame. Nous, l'État ou l'État, même pas les autorités académiques. Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme moyen? Moi, je l'étais. Qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour souvenir à tous ces besoins?
Oui. Donc, vous dites en fait qu'en gros, c'est de la responsabilité de l'État. Nous pensons que nous pourrons avoir.
Propriétaire de l'université.
Oui, nous aurons peut-être le ministre, si tout va bien, nous pourrons l'avoir. Il pourra répondre à cela. Quelle est la politique du gouvernement concernant ces fonds d'université?
Oui, je ne veux pas entrer en conflit avec le ministre, mais je dis simplement que si nos étudiants, comme d'ailleurs ailleurs, n'est-ce pas, étudient dans les mauvaises conditions, dans les homes, ce n'est pas la faute des étudiants. Je ne dis pas la faute de qui que ce soit, c'est une question de responsabilité.
Mm-hmm.
Que nos propriétaires de l'université prennent en charge.
Oui, mais professeur, concernant l'entretien même de ces homes, à qui le dit encore la responsabilité? Aux universités ou au niveau
du... madame. Comment vous voulez entretenir une chambre où vous dormez, une chambre où moi je suis en train de y payer, mais j'ai étudié là-bas, chambre 126. J'étais seul. Comment voulez-vous entretenir une chambre où vous êtes à 10? Parce que vous devez être à l'université, vous ne pouvez pas être ailleurs, vous devez être à l'université. C'est difficile à entretenir. Comment voulez-vous entretenir le courant? Comment? Nous sommes 10 000 étudiants, madame. Vous comprenez? Donc, au lieu de voir l'entretien des hommes, au lieu de cribler des étudiants, au lieu de dire non, il y a une petite part de responsabilité, bien sûr, mais la grosse part de responsabilité, c'est à nous, propriétaires de l'université. Même pas les autorités académiques, même pas les anciens, même pas les nouveaux, même pas les étudiants quelque part. Mais, madame, vous savez que l'université vit aujourd'hui sans subside. Si nous, professeurs, nous sommes payés sur le dos des étudiants, donc sur le dos des parents, les étudiants nous payent. Mais ce que les étudiants nous payent dépasse ce que l'État nous paye. Comment voulez-vous que les étudiants puissent vivre?
Oui, professeur.
Il n'y a pas d'homme.
Oui, professeur, nous allons vous garder en ligne pendant un bon bout de temps pour qu'on puisse évoluer avec cette émission. Nous allons prendre tout juste après cette petite pause, Franck qui est déjà en ligne, il nous appelle d'Autriche.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Franck. Bonjour Franck. Bon, on a vraiment un problème de ligne avec Franck qui nous appelle de l'Autriche. Nous allons essayer de pouvoir recontacter. Aujourd'hui, parole aux auditeurs s'intéresse au secteur de l'éducation, et bien notamment en ce qui concerne les homes des universités et instituts supérieurs qui sont dans un état de précarité assez avancé. Et les questions pour lancer le sujet, quel état de lieu faites-vous des homes des étudiants dans votre milieu, selon vous, que faut-il faire pour une amélioration des conditions de vie dans ces lieux d'hébergement? Donc, deux questions. Et si vous voulez intervenir à cette émission, vous pouvez nous contacter si vous êtes en RDC au 081-99-77-800. Je répète le numéro de contact, le 081-99-77-800. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le préfixe +243 à notre numéro de contact, 81 99 77 800. Vous avez aussi une seconde possibilité, vous pouvez nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Et ce sujet est assez intéressant et assez délicat parce que dans plusieurs universités et instituts supérieurs publics, une chambre qui avait une capacité initiale d'accueil de 4 étudiants héberge pour l'instant 8 étudiants, voire 10, même 12, et même les couloirs sont utilisés pendant la nuit comme chambre à coucher, il y a des étudiants qui amènent leur matelas et qui passent la nuit dans les couloirs. Les sanitaires, c'est un peu très très difficile. Les douches, les toilettes sont souvent dans un état déplorable. Souvent, il n'y a pas de cuisine. Ce sont les chambres qui font office de cuisine avec des installations électriques souvent défectueuses. Et puis, on a constaté quand même dans certaines universités, certains étudiants que nous avons contactés dans les universités à l'intérieur du pays, ils disent qu'il y a quelques efforts de réhabilitation, mais en tout cas, le besoin de la communauté étudiantine vraiment est énorme et ça signifie que vraiment ces efforts-là sont engloutis par rapport aux besoins des étudiants. Nous avons Michel en ligne. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour Marie-Chantal.
Michel, vous appelez de Lubumbashi, on vous écoute.
Oui, juste pour intervenir sur ce sujet, moi je peux dire que si. Vous voyez, bon, je maîtrise bien quand même le campus de Lubumbashi parce que je sais bien, Lubumbashi, quand même, ce problème-là que vous venez d'énumérer, en tout cas, c'est bien organisé, parce qu'il y a au moins 4 étudiants par chambre. Mm-hmm. Il y a 4 étudiants par chambre, en tout cas, nous sommes très bien.
On a arrangé, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça, une certaine période, il y avait vraiment un surpeuplement.
Oui, je sais, mais je dirais que, bon, ça dépend aussi de l'organisation, parce que si vous voulez seulement compléter la 5e personne dans la chambre, là, devait faire un problème très sérieux au niveau des élèves académiques. Mm-hmm. Alors, mais, bon, le problème qui nous coûte seulement, c'est un problème sanitaire. Juste le problème des douches, le problème des toilettes, c'est là maintenant qui cause le problème. Parce que, bon, là, vous pouvez vous retrouver 5 et 6 à 8 heures, non, à 8 heures, 7 heures, là, que vous tous, vous avez besoin directement de vous rendre au cours. Là, c'est par là maintenant qui cause le problème. Bien sûr, le problème des chambres, là, vraiment, ça va être.
Oui, mais Lubumbashi est même homme 11, hein, où les étudiants vont carrément dans la brousse. Est-ce que ça continue à exister parce que vous dites qu'il y a eu des améliorations?
Oui, c'est là juste le problème principal. Parce que quand on parle de l'homme là, 11, c'est un homme là, je dirais, inexistant, mais.
Oui, Michel, on vous écoute.
Oui, c'est par suite, en tout cas, de l'insuffisance des lieux des anges.
Mm-hmm. Oui, et quelles sont les propositions que vous pouvez faire? Est-ce qu'on doit construire d'autres lieux des anges? Vos propositions, Michel?
Oui, en tout cas, si on construisait, par exemple, au niveau de l'Ombashi, des lieux des anges, en tout cas, ce serait vraiment bien. Et j'interpelle quand même les étudiants qui sont à la cité, parce que bon, si vous vous retrouvez dans une chambre là, que vous êtes dans des filières un peu différentes, vous vous complétez mutuellement. Je vois qu'il est resté à la cité, resté au campus, en tout cas ceux qui sont au campus, en tout cas ils sont bien positionnés, ils sont bien formés qu'il y a un étudiant qui se trouve dans les centres.
Mmh. Mais vous dites, en fait, l'université quand même de Lubumbashi a plus de presque 20 000, hein, plus de 20 000 étudiants, et combien sont au home? Parce que vous souhaitez que tous les étudiants viennent au home.
Bon, le problème qui reste, c'est lequel? Il y a déjà vraiment un nombre d'élevés par rapport au nombre des chambres. C'est ça en tout cas. Mais nous avons constaté que les étudiants qui sont à la cité sont un peu nombreux par rapport à nous tous.
Mm-hmm.
Bon, la qualité de la ligne s'est détériorée, mais merci beaucoup Michel pour votre participation. Bonjour Jean-Marie. Jean-Marie?
Oui, bonjour.
Vous appelez de Kananga, on vous écoute.
Oui, je vous appelle de Kananga, Marie-Chantal. Si ailleurs on peut parler des hommes, des étudiants, mais à Kananga il ne faut pas en parler, parce que vous savez, Kananga avait un internat pour l'IST. Cette fois-là, c'était l'ISPFL, mais pour le moment à Kananga, il y a l'ISTEL, il y a l'extension de l'UMAGI, et puis il y a l'IDER. C'est vous dire que les hommes qui étaient pour les étudiants de l'ISP seulement, aujourd'hui servent pour tous les étudiants de l'Institut supérieur que je viens de citer. Donc, avoir l'ennemi, vous ne pouvez pas croire qu'il y a des étudiants qui vivent dans ces hommes. On ne pouvait pas croire que même c'est l'internat. C'est très sale, très sale, et puis il n'y a pas d'installation sanitaire. Il faut voir comment les étudiants souffrent, même pour se laver. Vous savez qu'à Kananga, il n'y a pas d'eau qui coule au robinet, et les courants électriques n'en parlent pas. Et même ces étudiants qui sont dans ces hommes, il y en a qui n'ont pas de table, qui n'ont pas de chaise, et ils ont difficile à étudier. J'ai suivi tout à l'heure le professeur Kambaï Boissa qui disait que c'était la responsabilité de l'État, mais il faut vous dire aussi que les instituts supérieurs perçoivent l'argent. Les chambres de football aux étudiants. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Voilà la question que je vais poser.
Merci beaucoup Jean-Marie. Vous posez une question, savoir à quoi sert l'argent que les étudiants payent pour le loyer dans ces homes universitaires. Nous avons Dr Richard qui nous appelle à partir d'ici de Kinshasa. Bonjour docteur.
Bonjour Marie-Chantal. Bonjour aussi à tous vos invités. Et surtout au professeur Kambaï Boissa dont le discours est tellement éducatif que j'ai déjà de peur.
Oui, et quel état de lieu faites-vous de la situation des homes dans les universités, surtout ici à Kinshasa?
Je commence par un témoignage parce que je suis étudiant à l'université de Kinshasa. Il y a eu un recteur, le révérend Léon Tessin Moulin, que je salue avec beaucoup de révérence. Il avait construit le théâtre en plein air avec les recettes de la salle de promotion. Donc, à son époque, avant d'arriver au Roman, à son époque, le complexe sportif fonctionnait, surtout la piscine. Actuellement, on nous dit que c'est plein de crapauds et on veut même céder ça à la Bralima ou je ne sais pas quelle entreprise, et c'est la catastrophe. Deuxièmement, j'interpelle la conscience du commissaire général à la cinquantenaire pour qu'on parle plus du deuil à 50 ans d'âge que de la fête. Parce que tout est en dessous de zéro. Alors, voici ce que je constate. Depuis qu'on a cédé la gestion à nous les Congolais, par le fait de l'indépendance, tout est négatif. Même la gestion des universités. Je ne sais pas s'il y a une université ou pas, parce que même la production académique est nulle. Il n'y a que des copies des autres. Alors, voici ce que je propose. Qu'on n'ait pas honte. Léon de Saint-Moulin vider les toilettes, etc. Mais les autres sont plus dans les bureaux, ils ne sont pas sur le terrain. Qu'ils apprennent comment gérer une université. Qu'ils apprennent ça. Qu'ils apprennent ça, parce que tout est congolisé. Tout est démocratisé à la hauteur ou à la lumière des partis politiques qui ne donnent rien aux Congolais, sauf le déchirement depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Et même les universités sont déchirées par les Congolais au départ de leur parti. Donc, pour moi, que ceux qui sont incapables de démissionner condamnent à ceux qui savent gérer les choses, la direction.
Merci beaucoup, Dr. Richard. Pour vous, vous pensez que c'est un problème de gestion? Nous avons pu recontacter Franck de l'Autriche. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, Madame Marie-Chantal.
Oui, Franck, on vous écoute.
Oui, je crois que ça, c'est un problème vraiment sérieux. Merci beaucoup pour avoir choisi ce thème. Vous savez que chez nous, le problème d'hébergement des étudiants, ça pose toujours un problème. J'ai toujours constaté que cela est dû à certains facteurs internes. D'abord, ce sont des chambres qu'on avait préparées pour 2 à 3 personnes. Je ne sais pas le nombre exact, mais je crois qu'il y a un problème de la capacité d'accueil qui se pose. Parce que pour une chambre prévue pour deux personnes, si vous arrivez maintenant à héberger 10 personnes ou 12, il y a beaucoup de problèmes techniques qui se posent au niveau de la conduite d'eau, au niveau des toilettes, même au niveau de la qualité de l'hygiène. Bon, il y a aussi un problème de la qualité du rendement intellectuel. On peut bien se concentrer quand on est seul ou bien à deux. Chacun peut s'occuper de ses livres, chacun peut bien travailler. Mais quand on se retrouve là à 8, à 9 ou à 10, on n'est plus porté à parler, à déranger, à suivre les mots, si bien que c'est la qualité du rendement intellectuel même qui se pose. Et moi, quand je suis de passage par là, j'essaie un peu d'observer comment nos amis eux-mêmes aussi prennent soin de leur propre santé. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on attende qu'on vienne mettre de la propreté dans la chambre où je suis en train de loger. Parce qu'il y a parfois aussi de négligence de la part de nos compatriotes, je m'excuse pour le dire ainsi. Mais je crois qu'il y a plus de problèmes qui se posent, c'est aussi un problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation parce que le ministre attitré du ministère devait savoir si les étudiants qui sont inscrits à l'UNITIM ou bien à l'ISTA ou bien à l'IBTP, ils logent dans de très bonnes conditions. Ou bien on leur demande de payer les frais de ceci, on leur demande de payer les frais de cela, mais la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là qui perçoivent? Oui, s'il n'y a plus de possibilité de les héberger dans des conditions là que nous n'acceptons pas, qu'est-ce qui manque maintenant de penser à construire des hommes dans d'autres quartiers? Parce qu'en Autriche, par exemple, où les étudiants ne sont pas hébergés à l'université, à la cité, il y a des hommes d'étudiants. Si vous avez des possibilités, vous pouvez vous trouver une chambre quelque part. Et si vous n'avez pas de possibilité pour vous trouver une chambre quelque part dans un homme, vous pouvez vous arranger pour vous trouver un appartement à 3 ou à 4. Et à ce niveau-là, on serait parti des tâches financières, quoi. Mais chez nous, il y a un peu un problème de réalisme. Il y a des gens qui arrivent à Kinshasa, qui n'ont personne pour les recevoir. Mais ils tiennent absolument à étudier, c'est vrai. Ils se débrouillent pour donner un sens à leur vie. Alors, ils vont essayer de mettre en pratique ce que nous sommes en train de décrire. Il est là à l'UTIM, il n'a personne pour le recevoir à la cité. Il va négocier avec quelqu'un qui est déjà en licence, qui a une chambre reconnue par l'université. Celui-là perçoit quelque chose pour le loger. Alors, il se retrouve là à 10 à 15. Et il y a même un problème qui se pose au niveau même de la qualité de l'hygiène, au niveau même de la qualité du travail intellectuel qu'on attend d'eux. Il y a un problème de conduite, donc il y a un problème de l'hygiène des toilettes. Donc je crois que c'est un problème qui doit interpeller l'État. On nous a toujours promis, on a dit qu'on devait donner à louer des bourses aux étudiants. Est-ce que ces étudiants perçoivent leurs bourses? Ou bien le budget même de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est de combien de pourcents? Et comment on peut attendre de ces étudiants-là un travail de qualité si les conditions de vie dans lesquelles ils sont formés ne sont pas respectables, madame? C'est vraiment un problème d'État. Je crois qu'il y a le ministre qui doit s'interpeller et les gestionnaires de nos universités et même les étudiants, nos amis qui sont là.
Oui. Merci beaucoup, Franck. Selon vous, il y a une part de responsabilité à chaque niveau, mais il revient aussi beaucoup plus, comme vous l'avez dit, à l'État de pouvoir réorganiser tout dans ce secteur-là.
Parole aux auditeurs.
Professeur Kambaï Boitia, vous êtes toujours en ligne, j'espère.
Oui, madame.
Oui, professeur, vous êtes toujours dans la gestion des universités, mais dites-nous, que fait-on de tous ces frais qui sont payés, concernant par exemple le loyer?
Non, j'étais dans la gestion des universités, je ne suis plus, mais à moi, je suis professeur d'université.
Oui.
Madame, vous avez entendu les étudiants, les étudiants congolais. J'ai dit bien les étudiants congolais, donc des personnes aujourd'hui déjà responsables, des personnes qui demain seront responsables de ce pays. Ça, je le dis. Vous avez entendu l'ami de Kananga, l'ami de Lubumbashi, l'ami de l'Université de Kinshasa, les UPN n'ont pas encore parlé, l'ami d'Autriche, très loin. Vous avez entendu une seule note, la catastrophe. Une seule note, la catastrophe. Un étudiant vient à l'université pour étudier. Ça veut dire que l'université offre des conditions pour que l'étudiant puisse étudier. Et cela, pour que l'université, les conditions puissent être remplies. Mais je vous ai dit, celui qui doit gestionner l'université, qui doit gestionner l'enseignement, mais celui-là c'est qui? C'est le propriétaire de l'État, c'est le propriétaire de l'université.
Donc, professeur, vous aussi, vous décriez une mauvaise gestion.
Écoute, madame, on parle de mauvaise gestion. À ce moment-là, je vous parle de l'expérience. Vous allez parler de mauvaise gestion. Où est-ce qu'un comité de gestion va trouver de l'argent pour construire 3-4 homes? Où est-ce qu'un comité de gestion va retrouver de l'argent? Alors, à ce moment-là, vous avez entendu nos étudiants dire que l'argent qu'on perçoit. Mais l'argent qu'on perçoit, pourquoi on en est arrivé là-bas, madame?
Peut-être que l'argent qui est perçu ne permet pas de faire des grands travaux de construction, bah, mais au moins d'entretien des
hauts. Ça fait juste, on perçoit quoi? Le professeur est arrivé à vendre ainsi la pêche, non pas par mauvaise volonté, non pas par immoralité, parce que ce que le professeur ordinaire soit-il, fait, l'assistant, ce qu'il a, n'est rien, c'est parce que ce qu'il a n'est rien. Alors il vend ainsi la pêche. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'il faut décrire. Ils vont, c'est qu'il faut décrire. Mais, j'insiste, comme tous les autres étudiants ont insisté, et ils ont parfaitement raison, arrêtons-nous, réfléchissons, mettons-nous ensemble ceux d'abord qui doivent gestionner le pays et la finance supérieure universitaire. Madame, nous sommes dans un monde de compétition. Si notre université, si notre enseignement supérieur n'entre pas dans un contexte compétitif, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de nos étudiants, perceptible, visible, mesurable, comparable avec nous-mêmes, avec nos voisins, surtout avec l'étranger, nous sommes en train d'assassiner notre jeunesse.
Oui,
pour leur donner l'exemple, attendez madame, oui. Pour leur donner l'exemple de Léon de Saint-Moulin. Mais Léon de Saint-Moulin, vous comprenez? D'abord, regardez son ancienneté. Voici un homme qui s'est mis sur le dos, n'est-ce pas, tout l'université, il a construit. À ce moment-là, il pouvait solliciter, on pouvait lui donner, il pouvait. Il a quelles conditions? Il a travaillé dans très bonnes conditions. Aujourd'hui, et les recteurs, et le secrétaire général académique, et les étudiants eux-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'a pas le moyen? On a parlé de 2 ou 4 étudiants par chambre, madame. Mais non! On ne peut pas habiter dans une chambre destinée à loger une personne. On ne peut pas habiter 4 personnes. Il y a une promiscuité incongrue. Non.
Oui, professeur. Nous prenons.
Les gens ne sont pas qui que ce soit. Nous devons.
C'est une émission d'échange, de propositions et de réflexions. Nous incriminons personne.
Oui.
Nous essayons un peu d'essayer de faire le tour de la question et faire des propositions. En vue de trouver des voies de sortie. Nous avons Karine qui nous appelle de Kisangani et Kennedy de Kalemi. On va les prendre juste après ceci.
Ok, si je vous apporte la bonne humeur le matin. C'est Alex Hippolyte et je ne suis pas seule. Avec moi, toute une équipe pour vous informer. Stéphane.
Nous lisons des journaux pour vous.
Je lis l'or. Nous parlons de votre environnement et vos initiatives nous intéressent. Marcel.
Votre santé, notre préoccupation.
Qui a qui aura?
L'autoroute. Bah, c'est là, à qui c'est ça?
C'est au Capi matin. Du lundi au vendredi, de 5h à 9h, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous suivez Radio Capi dans son émission Parole aux auditeurs ce mercredi. Notre émission interactive a choisi pour vous un sujet sur l'éducation en République démocratique du Congo, les conditions de vie des étudiants dans les homes, des universités et instituts supérieurs sont souvent précaires. Les questions pour lancer ce sujet, quel état de lieu faites-vous des homes, des étudiants dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour une amélioration des conditions de vie dans ces lieux d'hébergement? Karine, bonjour. Karine nous appelle à partir de Kisangani. Oui, Karine, on vous écoute.
Oui, je voulais vous dire que les conditions de vie des étudiants de la ville de Kisangani ne sont pas bonnes du tout, parce que vous allez voir dans une chambre, il y a des étudiants qui occupent une chambre par des chambrettes, une chambre peut être occupée par 6 personnes, par exemple, ou 4 personnes. En tout cas, cela inquiète beaucoup des étudiants, c'est pas bon. Il y a aussi l'eau, les problèmes de l'eau, au niveau des hommes, des filles, par exemple. L'eau, on n'arrive pas au niveau du deuxième niveau, ça se limite seulement au niveau du premier niveau.
Mm-hmm.
C'est un peu ça, ce qui inquiète les étudiants. On s'inquiète beaucoup parce que les étudiants payent
conseils, mais ce n'est pas toujours favorable. En tout cas, il faut que les autorités prennent les choses au sérieux.
Oui, par exemple, vous, Karine, vous payez combien si vous êtes étudiante?
Bon, les étudiants, pour cette année, on n'a pas encore fixé les taux.
Pour le prix de loyer.
Ça va varier au moins 165 dollars.
165
pour une année.
Ah, ça, c'est pour les frais académiques, mais concernant le loyer. Au niveau
de... là, les loyers, on paye 10 dollars, 15 dollars.
Merci beaucoup, Karine. Mais avant de nous séparer, c'est rare qu'on ait quand même des femmes sur nos antennes et c'est, on voudrait aussi encourager les femmes à pouvoir participer davantage à notre émission Parole aux Auditeurs. Karine, si vous étiez demandée de faire des propositions, quelles seront vos propositions?
Oui, oui. Je voulais ajouter pour dire que pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie des étudiants, moi je pense qu'on doit construire de hommes pour essayer un peu de varier la vie des étudiants. Que les autorités puissent prendre un peu en considération. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Karine de nous avoir appelé à partir de Kisangani. Bonjour Kennedy. Kennedy?
Oui, allô.
Vous nous appelez à partir de Calémie, on vous écoute.
Ok, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Bonjour.
Sinon, moi je crois que les qualités sont à distribuer, parce que les étudiants aussi ont une part de responsabilité. Du point de vue la saleté, par exemple, dans les homes d'habitation, est-ce qu'il faut attendre tout de l'État? Hein? J'appuie surtout l'idée de... intervenu au niveau de l'Autriche, c'est Franck aussi, comme ça.
Franck.
Alors, les étudiants, s'ils doivent comment gérer la saleté de leur homme, et non seulement attendre que l'État vienne leur dire que non, il faut ça, bien faire ceci. Non. Mm-hmm. Et de l'autre côté aussi, l'État aperçoit, je sais de. Par exemple, cette année, ils ont offert le taux, le prix au niveau de toutes les institutions. C'est maintenant, on m'a même donné les frais de connexe, je viens quoi. Hein? Mm-hmm. Alors, par exemple, si chez nous c'est 20 dollars, frais de construction, ce qu'on a toujours dit. Frais de construction, 20 dollars. Mais alors, on a attendre, ce qu'on a toujours payé, les loyers qu'on a toujours payé.
Mm-hmm.
Est-ce que tout ça, on ne peut pas construire d'autres hommes? Est-ce que depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont déjà construit combien d'hommes? On peut toujours parler des frais de construction, mais non des frais de réhabilitation.
Mmh. Merci beaucoup, Kennedy. Vous pensez qu'avec les frais qui sont perçus, on pourrait construire quand même quelque chose, quelque part, hein? Et vous estimez que jusqu'à présent, rien n'était construit pour l'État. Les universités d'État, on a nos anciennes universités qui sont toujours là. Bonjour, Ornella. Ornella?
Bonjour.
Oui, Ornella, encore une fois, nous allons vous demander de pouvoir vous éloigner de votre poste récepteur et de pouvoir suivre l'émission à partir de votre téléphone portable pour une meilleure qualité de son et éviter le retour à l'antenne. Ornella, on vous écoute.
Oui, moi, je voulais intervenir aussi sur ce problème. Mm-hmm. Je voudrais parler des problèmes que nous connaissons au home. Mm-hmm. Nous avons des problèmes de bâtiments qui sont en ruine. Qui n'est pas réhabilité, il n'y a pas d'entretien. Il y a un problème d'électricité qui ne nous permet pas d'étudier, qui est aussi à la base de beaucoup d'échecs.
Mm-hmm.
Nous avons des problèmes d'eau.
Mm-hmm.
Nous nous contentons de l'eau de source,
mm-hmm.
avec toutes les maladies parasitaires et tout.
Mm-hmm.
Nous avons les conditions hygiéniques qui ne sont pas respectées, les installations qui sont d'abord insuffisantes, nous avons les douches qui ne sont pas entretenues ni renouvelées,
oui.
Nous avons l'endroit où nous faisons la cuisine qui n'est pas adéquat, donc chacun ou chacune prépare dans sa chambre ou devant le couloir,
mm-hmm.
qui a comme inconvénient la fumée, l'endommagement des plafonds, des murs, des carreaux, de cuisine et de réfectoire.
Oui, mais Ornella, et quelles propositions vous pouvez faire? Des propositions assez pratiques et pragmatiques, hein, au niveau de votre home pour au moins améliorer ces conditions-là.
Oui, selon moi, je préfère d'abord que l'on se conscientise d'abord nous-mêmes que chacun prenne ses responsabilités, à assainir le milieu, à arranger l'endroit où nous vivons, et puis que le gouvernement aussi jette un coup d'œil sur la réfection des bâtiments et la construction des autres bâtiments, des autres homes.
Merci beaucoup, Ornella, pour votre participation à cette émission. C'est la deuxième femme pour cette émission. Ça me fait quand même beaucoup plaisir. Et surtout, les femmes essaient de réagir davantage, parce que, en fait, les femmes ont toujours des bonnes idées, comme l'a donné Ornella. Et je suis sûre que vous, qui êtes assise en train d'écouter Parole aux auditeurs, si vous avez envie de participer, il vous suffit d'appeler le 0 99 77 8 00 et vous donnez ne fût-ce que votre nom, votre numéro de téléphone, et nous on vous rappelle, comme ça vous pourrez participer et donner votre point de vue concernant ce sujet qui vous intéresse. Avant de prendre Séraphin qui nous appelle à partir de Kinshasa, il y a Joseph François-Joseph qui nous a écrit à partir de Kisangani, à partir de notre adresse internet pa@radiocapi.net. Il écrit ceci, il donne des propositions. La première proposition, l'État doit ajouter les homes des étudiants aux besoins, construire d'autres universités ISP pour désengorger certaines ISP et universités. Deuxième proposition, il doit aussi intervenir à temps quand il n'est pas encore tard pour réhabiliter les bâtiments. Troisième proposition, les étudiants doivent aussi faire un petit effort de propreté, maintenir propre leur lieu, car ni l'assistant, ni le chef de travaux, ni le doyen, ni le recteur, moi encore le ministre, ne viendra balayer ou cercler notre cour, bien qu'il y ait des ouvriers, des universités. C'est à nous et à nous aussi de pouvoir essayer d'arranger notre milieu. Il y a aussi Lucien Kimpumpu qui nous a écrit, il dit ceci, la quasi-totalité des résidences étudiantines sont dans des états de promiscuité dus au logement de plusieurs personnes, jusqu'à 10 étudiants dans une chambre, ça devient tellement sale, ma suggestion, pour remédier, il faudrait appliquer la bonne politique du logement, aussi construire d'autres homes comme c'est le cas à Lunikin. Séraphin, nous vous prenons tout de suite là. Bonjour Séraphin. Séraphin n'est plus en ligne. Nous avons Ibrahim. Bonjour Ibrahim. Aussi, Ibrahim n'est plus en ligne. Nous allons continuer à lire nos SMS. Ibrahim, bonjour Ibrahim.
Bonjour, madame.
Bon, nous allons, j'ai l'impression que Séraphin est à nouveau en ligne. Nous commençons par Ibrahim. Séraphin, vous attendez un peu. Ibrahim, on vous écoute.
Oui, madame, j'interviens à partir de Goma.
Mm-hmm.
Je suis le président sortant du comité des étudiants de l'ULPGN.
Oui, on vous écoute.
Nous avons les hommes à l'ULPGN. Nous sommes dans une université privée. Et dans toute la ville, c'est l'unique université qui a des hommes. Mais nous essayons de voir les efforts des autorités académiques pour entretenir les hommes. Mais il se pose un problème au niveau des étudiants.
Mmh.
Je suis d'avis de ceux-là qui pensent que les autorités ont une part de responsabilité. Voir les autorités académiques aussi ont une autre part de responsabilité. Mais les étudiants qui vivent dans des conditions difficiles pouvaient aussi dénoncer cette situation parce qu'on ne peut pas prétendre étudier dans de mauvaises conditions et laisser ça.
Oui, mais Ibrahim, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire? Vous êtes un ancien président des étudiants.
Les recommandations que je peux formuler, je vais les adresser aux autorités politico-administratives, aux autorités académiques et aux étudiants. Aux autorités de prendre la responsabilité ou les responsabilités pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Parce que les étudiants qui étudient dans les mauvaises conditions sont en train d'hypothéquer l'avenir même du pays. Si les autorités ne prennent pas conscience, cela est un grave problème pour la nation, pour les autorités académiques. Je vais les recommander de faire un suivi. Parce que les étudiants, comme ils traversent des moments difficiles, des conditions misérables, ils se cherchent à s'amener d'autres étudiants pour loger dans leur home, et cela entraîne beaucoup de conséquences sur leur formation, mais aussi les conditions sanitaires se détériorent davantage. Donc, on doit faire un suivi systématique tous les jours, passer et contrôler si les étudiants respectent respecte les conditions que les autorités académiques ont tracées pour loger dans une chambre. Et pour les étudiants, je vais leur demander d'être beaucoup plus vigilants et de ne pas permettre qu'un ami puisse amener quelqu'un du dehors et l'amener ou le mettre dans une chambre et après amener un autre étudiant. C'est vraiment un désordre. Donc cela, ça détériore vraiment les conditions d'études et ça a des conséquences énormes et négatives pour toute la nation congolaise.
Merci beaucoup Ibrahim pour votre participation. Séraphin, on vous écoute.
Bonjour Madame Marie-Chantal.
Oui, on vous écoute.
Oui, je salue tous les auditeurs qui nous écoutent. Voilà, nous parlons de lieux d'hébergement des étudiants aujourd'hui dans notre pays. Mais il est difficile de parler seulement de lieux d'hébergement sans pour autant de parler de la politique générale de l'enseignement supérieur universitaire. Parce que c'est le tout, c'est une partie du tout. Le professeur Sambagé vient de brosser les tableaux, mais bien avant lui, il y a le professeur Benoît Gravé, qui est déjà décédé, qui a écrit un ouvrage intitulé L'enseignement universitaire au Zaïre. Je recommande aux auditeurs de lire cet ouvrage-là. Là, tous les tableaux et les enseignants de la situation de nos universités aujourd'hui. Alors, puisque vous parlez uniquement de lieux d'hébergement, je vais prendre un cas, c'est l'IFPGondé, qui est presque au centre de là où se trouvent les différents départements où se prennent certaines décisions des pays. Alain peut voir nos mamans, nos futures mamans qui sont là-bas, qui sont logées dans quelles conditions, et vous allez vous rendre compte. Il y a certains auditeurs qui sont intervenus à partir de Lubumbashi, ils disent que là-bas, je sais, c'est très bien, c'est 4 personnes, la personne qui vous parle de l'ancien étudiant de là-bas, il est incroyable aujourd'hui que les gens pensent qu'on peut loger 4 personnes dans une pièce d'un mètre carré. C'est ça la situation de là-bas. Et pour les toilettes, vous-même vous l'avez dit, c'est l'homme 11, connu de tout le monde. Le docteur Richard lui pense que c'est un problème de gestion. Je ne pense pas que c'est un problème, parce que ça doit poser un problème de gestion. Le problème est plus grand. C'est plus, quelle est la politique? On veut voir quel type d'homme doit diriger ce pays. Et ces gens sont logés de quelle manière? Donc, ça peut déjà définir, quelle est la vision des autorités actuelles, hein, par rapport aux futurs dirigeants de ce pays. Je vais peut-être terminer en faisant des petites propositions. Pour moi, la proposition, elle est malheureusement, elle est grave. Pour moi, il faut qu'on ferme tout, madame. On doit tout fermer. Organiser les états généraux des universités. Après, l'État doit prendre ses responsabilités. Pourquoi ne pas conseiller d'autres universités? Parce que l'université actuelle, madame, vous avez plusieurs fois des étudiants en ligne qui nous appellent. C'est malheureux. Quand on dit que c'est un étudiant qui appelle, vous sentez qu'il est incapable de former une phrase dans la langue de l'éducation. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Mais comment vous vous étonnez? Parce que le professeur Kambaye a dit, mais ce monsieur est logé dans quel état? Il pense à quoi? Il pense d'abord à son logement. Comment voulez-vous maintenant qu'il arrive à maîtriser une théorie qu'on va lui apprendre?
Oui, mais Séraphin, dans votre logique de fermer toutes les universités, que vont devenir les étudiants?
Non, c'est-à-dire que c'est cela, madame, dans une situation où on veut transformer les choses. Hein. On ne peut pas continuer à garder les choses dans l'état où ils se trouvent. On dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoutez, madame, je propose aux étudiants même d'aller faire les services de la police. Ils peuvent aller d'abord faire les services de la police pendant 7 ans pour construire d'autres universités. Parce que cela dépend de la société de demain. Quel type de société nous voulons avoir dans ce pays? Mais on va continuer, madame, à gérer la médicité. Aujourd'hui, nous étudiants, 12 jours, ils sont incapables d'écrire. En deuxième, madame, vous voyez tout, on va continuer comme ça jusqu'à quand?
Oui, merci beaucoup, Séraphin, pour votre participation. Vous avez donné votre point de vue concernant ce sujet et aussi des voies de sortie que vous considérez utiles pour pouvoir améliorer les choses. Bonjour, bravo.
Bonjour Madame Marie et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous nous appelez de Guémena, c'est dans la province de l'Équateur. On vous écoute.
Merci Madame. Merci aussi pour m'avoir accordé la parole. L'histoire des hommes ici à Guémena n'en parle même pas. Aucune histoire qui raconte qu'il y avait des hommes ici ni éternels à Guémena n'en parle même pas. Mais c'est tous les principes, c'est quoi Madame? Je suis pour notre sujet, du fait que l'avantage est dans notre faveur, nous les étudiants. la diminution du budget des étudiants, ça contribue aussi, surtout, le coût du transport pour les étudiants. Ça contribue aussi à la formation de l'étudiant, à savoir déjà comment gérer le prix qu'il a, là-bas où il est à l'internat ou bien dans les homes. Mais hélas, madame, la mal-application de cette initiative rend l'étudiant à dévier son objectif. Ce cas est observé surtout chez nos camarades étudiantes, chez les filles. Elles se trouvent dans une grande liberté qui leur permet de se rendre dans la boîte de nuit, soit dans les terrassés, et à faire avec l'argent ramassé à la boîte de nuit, leur permet de pratiquer la corruption pour passer une année académique à l'autre. Quant à moi, je conseillerais au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de mettre en place un système de contrôle des études. Vous verrez que dans d'autres pays, comme notre ami qui vient de dire que nous sommes dans le monde de coopération, le monde de compétition, à part la République démocratique du Congo, l'étudiant est bien matérialisé avec la technologie moderne, au lieu d'aller dans la boîte de nuit, il peut se retrouver avec ses amis sur le site internet pour discuter des sujets, des propos. Je connais un site internet, HICEN, il y a tant de amis là-bas, on peut se retrouver là-bas, on se discute au lieu d'aller à des boîtes de nuit. Ça fait mal au cœur, madame.
Oui, merci beaucoup pour votre participation. Nous allons prendre aussi Lambert, qui nous appelle à partir de Kinshasa. Bonjour, Lambert.
Oui, bonjour, madame.
Lambert, on vous écoute.
Oui, oui, je voudrais un peu intervenir sur ce sujet pour dire qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ce domaine des études. Il ne faut pas que les gens oublient que l'environnement, d'une manière totale, est pollué et dégradé. On ne peut pas isoler les études comme un cas à part. C'est-à-dire, si vous regardez, je donne un petit exemple. Si on vous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de courant, il y a un problème de connexion de courant de gauche à droite. C'est puisqu'on a prévu une intensité de courant pour un nombre de populations bien déterminé. C'est la même chose avec les universités. L'université de l'UPN, par exemple, moi j'ai terminé quand il était encore à UPN, et celui qui intervenait là, c'est mon professeur, qui m'a donné cours aussi, professeur Cambay, je le salue en passant. Là, avant, on avait prévu les hommes qui sont là, hommes D et l'autre là, les chambres qui étaient prévues pour un nombre d'étudiants bien déterminé. Mais aujourd'hui, nous avons un nombre plus élevé, puisque tout le monde veut aller à l'université. On n'avait pas demandé aux gens de rester, puisqu'à l'époque, on déterminait qui pouvait continuer, qui pouvait rester. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui va à l'université. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans ce secteur-là. On peut bien condamner les professeurs, les enseignants, tout ça, mais moi, je vois que c'est l'État qui doit intervenir dans tous ces domaines. Et le courant, et l'eau, et les universités. Ce sont des faits qui passent dans la société. Et donc, on ne peut pas isoler un cas pour dire que non, les universités sont comme ça, pendant que vous savez qu'il y a aussi un problème d'eau à côté. Bon, l'État doit intervenir. Puisque, je vous donne l'exemple, par exemple, l'université protestante qui est à côté là, elle est organisée, puisqu'elle est privée, elle est organisée. Mais là, c'est l'État, on dit qu'il y a des universités de l'État. Il faut que l'État organise ça. Oui. Si l'État n'arrive pas à organiser l'université publique, qu'il le fait au privé, ils vont le rendre peut-être un peu plus compétitive comme d'autres à côté de l'histoire des autres universités. Mm-hmm. Et c'est ça ma proposition. Puisque si on doit continuer, même aujourd'hui, moi je condamne, j'ai un enfant qui étudie déjà à l'université, mais ma chère, c'est tous les jours qu'on demande l'argent du syllabus, qu'on demande l'argent d'enrôlement des TIP, l'enrôlement d'interrogation, l'enrôlement à tout moment.
Mais merci.
C'est de leur faute, c'est pas de leur faute.
Oui.
Je peux pas condamner les amis enseignants. Il faudrait que l'État s'occupe de ces gens-là,
mm-hmm.
pour ne pas leur donner l'occasion de faire ce qu'ils sont en train de faire.
Mm-hmm.
Qu'on les paye, alors que l'État commence à gérer même les frais de fonctionnement, comme nous avons étudié, et ça sera la moindre des choses.
Merci beaucoup, Lambert, pour votre intervention. Vous pensez, l'idée maîtresse, c'est de pouvoir céder les universités publiques au privé pour une meilleure gestion et organisation. Nous prenons directement le professeur Kambay Boatcha. Professeur, vous êtes toujours en ligne.
Oui, madame, oui.
Oui, une petite réaction par rapport à toutes ces interventions des étudiants, mais je signale que le ministre sera en ligne tout juste à la deuxième partie de notre émission, tout juste après le flash d'information. Professeur, vous avez la parole.
Merci beaucoup, madame. Sans aller en guerre contre qui que ce soit, mais je salue tous mes étudiants, ce sont des gens formidables, ils réfléchissent tous de la même manière. Vous avez vu, sans se concerter. Écoutez, madame, n'est-ce pas, les conditions de homme de nos étudiants, ben, ça dépend tellement de nos étudiants. Là, on dit que les étudiants doivent prendre responsabilité, mais il va changer sa chambre, comment il y a 10 personnes dedans. L'université congolaise aujourd'hui, la chambre supérieure aujourd'hui au Congo, c'est le miroir de l'État congolais d'aujourd'hui. Allons plus loin. Nous avons proclamé que cette année est l'année du social. Voici, c'est un chantier. Le chef de l'État lui-même a dit que c'est un chantier. Alors, ce chantier parle de type d'homme, comme notre ancien étudiant qui est devenu mon ami a parlé tout à l'heure, parle de type pédagogique d'homme. Mais c'est l'état de demain. Donc, il faudrait payer les étudiants, payer les professeurs, revendre le problème de bourse, donner le subside au comité de gestion, surtout madame, construire, surtout madame, faire
une politique générale. Il y a des frais de construction que les étudiants doivent payer, c'est $20, je pense, par étudiant.
Mais je sais que, par exemple, à l'Italienne, où l'autorité n'y a pas longtemps, les frais de construction payés par les étudiants ont produit un bâtiment.
Mm-hmm.
Un bâtiment. Mais, dis-toi, à peu près aujourd'hui, il y en a là-bas où 6 ou 7. Mais comment voulez-vous construire ce bâtiment? On l'a très bien construit. Comment voulez-vous entretenir ce bâtiment au moment où nous avons à l'intérieur de chaque auditoire composant le bâtiment, madame, où nous avons par exemple 300, 400 étudiants. Ce sont des personnes humaines. Non, nous sommes responsables. Quand je parle de nous sommes responsables, il y a d'abord le propriétaire de l'université. C'est l'État, madame. Ceci est important. Et on a parlé de politique générale. L'année est vie sociale. Le premier chantier, c'est celui-là. Payer les professeurs, donner les subsides, restaurer les bourses d'étudiants, créer les homes, parce que il n'y a pas de moyen de transport, les étudiants doivent étudier. Le pays qui étudie, c'est un pays qui avance.
Merci beaucoup.
Est-ce que je peux terminer par là, moi?
Oui, en tout cas, merci beaucoup, professeur, pour votre participation à cette émission.
Merci.
Nous aurons une deuxième partie de l'émission.
Félicitations pour tous ces étudiants et étudiantes qui prennent à cœur les conditions
de mais n'empêche que vous pouvez suivre avec nous notre flash d'information qui va intervenir dans les quelques secondes qui suivent.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs se poursuit dans sa seconde partie, comme chaque mercredi. Et aujourd'hui, notre émission interactive a choisi pour vous un sujet du secteur de l'éducation. En République démocratique du Congo, les conditions de vie des étudiants dans les homes des universités et instituts supérieurs sont souvent précaires. Dans ces homes, plusieurs universités ou instituts, surtout publics, une chambre avec une capacité initiale d'accueil de 4 étudiants héberge 8 étudiants, voire 10 ou 12, même les couloirs sont utilisés comme chambre à coucher pendant la nuit. Les sanitaires, douches et toilettes sont souvent dans un état déplorable. Souvent, il n'y a pas de cuisine. Les chambres sont transformées en cuisine avec des installations électriques souvent défectueuses. Quelques efforts de réhabilitation sont constatés, mais les besoins sont énormes à telle enseigne que les travaux de réhabilitation sont engloutis face aux besoins pressants de la communauté étudiantine. Les questions pour notre sujet d'aujourd'hui, quel état de lieu faites-vous des homes des étudiants dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour améliorer les conditions de vie dans ces milieux d'hébergement? Nous avons en ligne le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Macha Komamba. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Notre émission, on l'a commencé une heure avant. Il y a eu plusieurs réactions des étudiants, des responsables, des parents et ainsi de suite qui ont donné leur envie, leur avis concernant ce sujet-ci. Nous pouvons aussi lire quelques autres réactions qui joignent en fait les mêmes idées de la plupart de nos auditeurs. Il y a par exemple Viviane qui nous écrit de Colosi. Je propose que les universités puissent d'abord diminuer et après limiter le nombre des étudiants à loger dans les homes. Il y a aussi Tite Trudon de Colosi, il dit que l'État construit de nouvelles universités en vu la densité actuelle de la population étudiantine. Il y a aussi Pépé Mikwa qui nous écrit à partir de Kisangani, il y a un réel problème aujourd'hui avec les homes, les toilettes sont piteuses. l'hôpital et la capacité d'accueil n'a pas suivi le nombre croissant des étudiants. On trouve 5, voire 8 étudiants dans des petites chambres. On devrait construire d'autres hommes. De ce nombre croissant, ce sont les étudiants qui s'arrangent entre eux pour partager les chambres. Le service de logement a du mal à gérer tout ça. Il y a des nouveaux étudiants qui sont escroqués par certains anciens en versant de l'argent en pensant recevoir une chambre. Et enfin, Jacin de Goma qui nous écrit ceci, la responsabilité d'ériger les homes revient à l'État, mais l'entretien revient aux étudiants et aux autorités académiques. La réhabilitation de l'UBTP, il y a peu l'Unikine et l'Unilou, mais le délabrement intervient tôt à cause de l'impunité. Monsieur le ministre, en gros, pouvez-vous nous dire quelles sont les normes en fait qui réglementent la gestion de ces homes d'étudiants?
Merci beaucoup. Je voudrais une fois de plus m'excuser vu les urgences qu'on devait régler. Et merci aussi pour continuer à vous intéresser au secteur de l'enseignement supérieur. Je voudrais vous dire que l'état des lieux actuellement correspond à tout ce que les uns et les autres ont dit. Nous avons des hommes qui aujourd'hui sont dans un état de délabrement très prononcé. Nous avons un surpeuplement là où on parle de 8 étudiants. J'ai vu étudiants ou étudiantes ont parfois dans une chambre qui était prévue pour 2 personnes, on trouve autour de 12 personnes. Et là, vous ajoutez une donne aussi caractéristique de notre population, c'est que même là où on dort, on ne veut pas nettoyer, on attend que quelqu'un d'autre vienne nettoyer. Et à côté de ce tableau qui n'est pas très réalisant, il y a aussi un autre engagé. Pour moi, c'est les hommes de l'État. Les hommes de l'IS. Voilà des institutions qui ont des beaux bâtiments, mais qui, en fait, pour des raisons de maîtrise et de la gestion, on a préféré vider et ne pas s'occuper à réhabiliter. À côté de ce tableau sombre, il y a quand même ici et là des exemples, notamment quand vous voyez le homme des étudiantes de l'ICI, mon collègue ici à Kinshasa. Vous êtes émerveillés, je ne pense pas qu'en Occident on est mieux que ça, de même chez les orthodoxes. Comme vous le voyez, c'est chez les privés, ceux qui construisent des hommes, ils respectent les normes, un étudiant par salle, au maximum 2. À l'université de Lubumbashi aussi, avec l'appui du chef de l'État, il y a un homme pour les filles qui avait été réhabilité, et un homme pour les garçons. On a relogé les étudiants en suivant les normes. Mais aujourd'hui aussi, il y a un phénomène de férisme. Les hommes sont gérés, non pas par les autorités, mais par généralement des étudiants ou des policiers qui vont sous-gérer des gens qui ne sont même pas des universités, avec femmes et enfants. Et donc, ça veut dire que l'État aussi a assisté un peu à la vente des hommes de mariés. On voit par exemple ce qui était à Lemba. Pour l'UNICIN, pour l'UPN, pour l'INDA, et ceci est vrai dans toutes les provinces.
Donc,
il y a une responsabilité de l'État, mais aussi des gestionnaires, et aussi, finalement, aussi de la communauté, qui préfère tout chacun chez son intérêt, et pas se rendre compte que l'homme participe à l'amélioration des conditions de travail des étudiants.
Oui, monsieur le ministre, mais quelle est la politique du gouvernement concernant la réhabilitation de ces hommes?
Bon, d'abord, premièrement, c'est pour ceux qui, comme le dit le gâchis, ceux qui ont des hommes et qui ne sont pas utilisés, nous avons donné des instructions pour que tout passe pour cette année, qu'on commence, on réhabilite, on commence à reloger. Je pense à l'ISA, on a commencé à reloger, et à l'ISC, aussi un très beau campus. J'ai demandé qu'il y ait un homme pour les garçons, pour les étudiants, pour qu'on facilite la tâche. Les étudiants qui viennent de l'intérieur et ceux qui sont dans la ville ici, ceux qui habitent dans des endroits éloignés des institutions. À l'UNICIN ou à l'UPEN, il y a un surpeuplement, il y a un état de délabrement, il manque des toilettes, on fait ce qu'on appelle la ligne 11. Donc là, c'est d'abord la maîtrise, parce que j'ai demandé qu'on puisse d'abord faire sortir des hommes, tout ce qui n'a rien à voir avec l'enseignement supérieur. Il est important aussi qu'on ne puisse pas continuer à prendre des frais sans de la part de vie des parents, sans qu'une partie contribue réellement à améliorer l'environnement.
Donc on va supprimer les frais de construction.
Non, parce que je vais vous donner un exemple simple. L'université de Kinshasa, qui est le plus grand, a été conçue pour 5000 étudiants. Maintenant, nous sommes pratiquement à 34 700. Donc, nous devons tenir compte de cette demande qui est augmentée. Nous devons nous assurer qu'on réhabilite d'abord les toilettes pour permettre quand même que les gens puissent être à l'aise. Et il faut pouvoir dégraisser les hommes et s'assurer qu'on les répare et qu'on isole ceux qui réellement ont droit à y être logés. Parce que, vous savez aussi, ces hommes se sont transformés aussi en repères des gens en uniforme ou des gens armés. Il est courant qu'on trouve dans les hommes des gens qui ont des équipements qui ne doivent pas être là. Et donc, c'est vous dire aujourd'hui, le problème des hommes est un problème académique, un problème de bourgeois, mais un problème aussi sécuritaire. C'est vous dire que le Congolais, quand il y a un vide, et ça c'est naturel, quand il y a un vide de l'autorité de l'État, très rapidement, tout ce qui est antivaleur s'installe. Donc, c'est une question très importante qui peut participer à la qualité de la vie de l'étudiant, mais dans les circonstances actuelles, le problème de l'homme ne résolve pas entièrement la grande question de pouvoir mettre les étudiants dans les meilleures conditions. C'est une réalité qui est devant nous, nous ne pouvons pas nous cacher le visage, mais la détermination, c'est progressivement d'amener et le ministère, mais également les gestionnaires, mais sans oublier la coordination des étudiants, à ce que nous en fassions un des éléments sur lesquels nous devons peser sur la qualité et l'excellence dans cet environnement qui doit être excellent pour la qualité des étudiants.
Oui, mais apparemment, on a l'impression que les universités privées sont mieux loties que les universités publiques. Il y a un auditeur qui a fait une proposition. Est-ce que c'est possible de pouvoir remettre la gestion de ces universités publiques à des privés?
Oui, mais je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous avez une institution de 500 ou 1000 étudiants, oui, parce que regardez, les plus grandes institutions privées ne vont pas au-delà de 3000 personnes, mais lorsque vous avez 10 000, 20 000, 30 000, pour le moment, je ne vois pas un seul privé qui va dire qu'il va le faire, parce que aujourd'hui, c'est des millions de dollars qu'il faut investir pour réhabiliter les campus. Le chef de l'État, c'est volontaire, le premier ministre, d'amorcer ce combat, mais c'est un combat sur lequel il faut compter sur l'engagement aussi du ministère et de cette structure, et surtout des gestionnaires au quotidien qui, souvent, regardent dans d'autres directions au lieu de regarder réellement la situation qui n'est pas bonne pour nos étudiants, parce que nous voulons que nos étudiants vivent dans un environnement salubre. Moi, j'ai été mal à l'aise quand j'ai visité des pays voisins où vous voyez la propreté des auditoires, des hommes, de l'environnement. Et le privé est en train de montrer un bon exemple au secteur public, et je ne cesse de le dire, parce que moi, je fréquente les deux types d'institutions, et je dis qu'en se visitant mutuellement, les gens peuvent comprendre que quand on leur donne un conseil ou des directives, ça ne peut pas se conseiller à les embêter, parce qu'on est gêné de voir que les gens se sentent à l'aise dans l'insalubrité. Parce que nos campus aujourd'hui sont dans l'insalubrité, les hommes, la situation est encore plus dramatique.
Monsieur le ministre, nous sommes presque à la fin de notre émission, en une minute pour conclure. Vous savez que gouverner, c'est prévoir, mais par rapport à ce boom démographique des étudiants, qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir pour ces hommes?
Non, d'abord, c'est l'ensemble en fait du système. Il faut d'abord que les auditoires soient corrects. Il faut aussi qu'on s'attache à ce problème de hommes pour ceux qui en ont et qui ne logent pas et qui logent. Ceux qui en ont, il y a un surpeuplement, on doit y mettre de l'ordre. Et surtout, c'est envisager et pousser là où on n'a pas de hommes, alors qu'il y a une concentration d'hommes et de femmes, il faut une politique pour commencer à construire progressivement des hommes, parce qu'il y a des étudiants qui viennent de très loin, des provinces, qui viennent parfois de l'étranger, et aujourd'hui la situation n'est pas très très bonne. On en est conscient, mais le chantier est tellement complexe que nous essayons de l'aborder progressivement, avec l'espoir d'avoir les bons exemples.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre participation aussi. Merci aux auditeurs. Demain, c'est le prochain numéro Parole aux auditeurs et l'ouverture mardi des travaux de validation des textes de base de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, qui se tient ici à Kinshasa. L'objectif de ces travaux est de donner une nouvelle impulsion à ce regroupement sous-régional. Les questions que faut-il faire pour relancer la CPGL, qu'attendez-vous de l'implication de la RDC dans cette organisation sous-régionale? Réagissez dès à présent en écrivant à l'adresse internet pa@radiookapi.net.